Bonjour tout le monde, chers parents. C'est avec un grand plaisir qu'au nom du comité de la ZEP, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui, à titre tout à fait exceptionnel, une fois n'est pas coutume, vous est réservée en tant que membre de l'association que vous soutenez. En effet, tous les parents présents aujourd'hui, soit plus de 200 personnes qui se sont inscrites, font partie de notre association ou de l'association Valaisanne, l'AVPEHP, une association amie et partenaire avec qui on collabore beaucoup et très volontiers. Malheureusement, pour des raisons personnelles et tout à fait compréhensibles, le président de l'AVPEHP et son épouse, Raymond et Marie Pernet, ont dû renoncer à leur présence parmi nous aujourd'hui, mais nous comptons sur la vingtaine de parents venus du Valais pour leur faire un compte-rendu, peut-être lors de l'Assemblée générale la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, nous vous remercions très sincèrement d'avoir répondu positivement à notre invitation et vous souhaitons également la bienvenue. La ZEP a été fondée en décembre 1998, 15 ans déjà. Nous tenons à remercier très sincèrement Madame Ariel Ada, psychologue à Paris, très connue et très demandée, d'avoir accepté notre invitation. Il y a 15 ans, elle avait déjà participé au tout premier congrès de la ZEP et déjà à ce moment-là, son expérience sur le sujet des enfants doués était reconnue et appréciée. Pendant les préparatifs de cette conférence, j'ai eu le privilège de rencontrer Ariel dans son cabinet à Paris. Et je peux vous assurer que notre discussion n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Les enfants doués, ou à haut potentiel chez nous, peu importe le thème qu'on utilisera aujourd'hui, elle connaît. À travers ses livres que vous voyez sur la table, à côté d'elle, d'ailleurs cités dans notre brochure d'information ainsi que sur notre site, ses diverses conférences disponibles sur Internet, et depuis quelque temps, ses chroniques dans le Journal des femmes. Vous avez reçu le lien dans l'invitation qu'on vous a envoyée par email. Et je vous recommande vraiment de lire tout ça. J'ai appris moi-même beaucoup de choses, et je suis sûre que vous en ferez de même. Je tiens également à remercier mon amie Alexandra, ici présente, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alexandra est l'auteur du blog « Les tribulations d'un petit zèbre », vous avez certainement, la plupart d'entre vous, déjà lu sur Internet. Elle partage et commente tout ce qu'elle trouve par le biais de son blog et via Facebook et Twitter. Une vraie mine d'informations. Merci, Alex. En accord avec Ariel, nous avons souhaité l'inviter, car elle aura à la fin de la conférence, une clé USB contenant l'enregistrement audio de cette conférence lui sera remise. Je vous laisse deviner ce qu'elle en fera. Merci, Alexandra. Nous te faisons confiance et on compte sur toi pour le partage. Ariel, c'est à vous. Merci.
Alors, je ne sais pas si le micro marche. Oui, j'ai l'impression que j'ai un écho. Voilà. Donc, avec Roberta, nous avons fixé le programme de ce que j'allais dire, puisque vous êtes tous, c'est pas la peine de faire une réunion d'initiation, d'information générale. Donc, il y a différentes rubriques d'après ce que vous aviez dit, ce que vous auriez aimé qu'on traite. Et jusqu'au dernier moment, il y avait des questions ouvertes. Donc, je vais parler des tests, mais des tests, la façon dont il faut comprendre les notes, les résultats, surtout concernant les enfants doués. Ensuite, faut-il tester tous les enfants d'une même fratrie ? Comment donner les résultats aux enfants ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ? Et puis, je terminerai par quelques conseils aux parents et comment aussi on peut parler des enseignants, aux enseignants. Alors, les tests sont vraiment, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui hurlent à l'idée de cataloguer des enfants. Dans les années en 68, quand il y a eu la Grande Révolution, ça a été vraiment, les tests ont été jetés à la poubelle. Et d'ailleurs, en Belgique, dans l'université de Louvain, ils faisaient des études sur les enfants doués. Ils ont balancé tous les résultats. Ils ont arrêté toutes leurs études, et ils ont tout balancé. En 68, c'était fini, on ne parlait plus de ça. Et donc, il y a cette école-là, il y a une école psychanalytique, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi les parents font ça, il faut savoir, il faut rechercher, contexte familial. Et puis, il y a des gens qui sont restés fidèles au principe, pourquoi un enfant échoue à l'école, c'était au départ, hein, Binet a créé les tests à cause de ça, pourquoi un enfant échoue à l'école. En faisant un test, on comprend pourquoi, s'il a 80 de QI ou s'il a 120, c'est vraiment pas les mêmes raisons. Et Maintenant, on devient un peu trop prudent dans ce sens qu'on donne un intervalle de confiance. Alors, je ne sais pas si ça se fait en Suisse, mais ici, enfin en France, à Paris, enfin en France, souvent on dit intervalle de confiance à 95% ou à 90%. C'est complètement flou. Alors j'ai noté, par exemple, un QI de 142, un QI global. Si c'est un intervalle de confiance de 95%, c'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur de 5%, on dit aux gens c'est entre 133 et 146. Et si c'est un intervalle de confiance à 90%, c'est 134, 145. Bon, déjà, je vois, vous êtes certainement perdus, mais quand les parents reçoivent tout comme ça, chaque échelle avec tous ces chiffres, ils sont complètement perdus, perdus dans tous ces nombres. Et on dit aussi, c'est au-dessus de 130, mais 131 et 150, ça n'est pas la même chose. Parfois, on se contente de ça. Et il y a aussi la traduction en âge mental. Mais la traduction en âge mental, c'est item par item. Alors on dit tel item, il a 8 ans, tel item, il a 7 ans, tel item, il a 10 ans. Ça n'est pas très clair. Et en plus, ça se tasse avec le Binet-Simon, ça se calculait âge mental sur âge réel. Mais avec l'âge, ça se tasse. C'est un enfant de 3 ans, de 4 ans, s'il a 2 ans d'avance, ça fait un QI énorme. S'il a 10 ans, il a 2 ans d'avance, ça fait déjà beaucoup moins. J'avais fait une fois le calcul, mais bien sûr, j'ai oublié les résultats. Bon, enfin, ça fait beaucoup moins, c'est évident. Donc là, ça cite, le WISC situe les enfants dans une courbe de Gauss par rapport à une population d'enfants du même âge dans une fourchette de 3 mois. Et ça va très vite. Ça va très très vite. À 3 mois près, il y a des différences dans les items comme le vocabulaire, comme la mémoire. Il y a des différences importantes. Hein. Ça peut faire 5-6 points de QI de différence à 3 mois près. C'est impressionnant. Mais c'est un calcul statistique. Et voilà, là, alors là, on a une moyenne et on voit où se situe un enfant et ça, on a une image, en plus c'est parlant. Donc, on va parler du item par item. Le verbal, c'est là où les enfants sont, les enfants doués, là, ils donnent toutes leurs mesures et n'ont aucun blocage. Il n'est pas question de connexion à mettre en place, comme ce qui est moteur, où ils sont maladroits parfois. Là, il n'y a rien à mettre en place. Ils connaissent un mot, ils l'intègrent, ils entendent parler, ils ont le sens du langage, ils ont le goût des mots. Au vocabulaire, on voit les rouages, on voit qu'ils recherchent la définition concise, précise, élégante, qui reflète, et je dis dans mes comptes rendus, qui reflète la clarté de leur pensée. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment les gens doués, donc moi je dis doués, hein, je dirais toujours comme ça, les gens doués ont cette caractéristique, cette particularité d'avoir une pensée très claire, très lucide. Et même des adultes qu'on voit au plus profond de leur détresse, quand ils parlent, ils ont cette façon de s'exprimer qui est admirable de clarté. Vraiment, et les enfants ont ça aussi. Ce qu'ils disent, il faut pas, ils auraient l'impression de se trahir eux-mêmes si la pensée était floue, s'ils disaient quelque chose qui n'est pas clair dans leur esprit, ils se trahiraient, ils trahiraient leur pensée, ça, ils ne supporteraient pas. Donc, ils ont, alors le vocabulaire, c'est fantastique. Comme en plus, ils sont bons lecteurs généralement, tôt, ils lisent tôt. Et à ce propos, je dis entre parenthèses, mais plus tôt on lit, meilleur lecteur on est. Donc il ne faut vraiment pas attendre. Pour un enfant doué, il vaut mieux pas attendre que ce soit l'école qui apprenne. Surtout chez vous, c'est 7 ans, c'est vraiment... on a déjà passé l'âge. Quand un enfant a envie d'apprendre à lire... On lui apprend en jouant, en s'amusant, en déchiffrant les enseignes dans la rue, mais on lui apprend quand il a envie d'apprendre. C'est le moment où il y a la demande et où la maturation est suffisante pour qu'il lise. Et plus tôt on lit, meilleur lecteur on est. Et dans la vie, on a intérêt à être de bons lecteurs. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est un plaisir. Et en même temps, source de vocabulaire, d'enrichissement, de tout. Et ça fait voyager. Donc ce vocabulaire, très souvent, il dépasse la note maximum, la note standard et la note brute est transformée en note standard et au vocabulaire, ils dépassent le 19. Ils ont des points d'avance. Alors, et on voit comment ils fonctionnent. On voit la façon dont ils s'appliquent, dont ils s'impliquent aussi. Et alors, j'ai dit que j'allais parler, je n'ai pas dit, mais j'allais parler du WISC surtout, mais avec quelques incursions dans le WPPSI qui s'adresse aux enfants plus jeunes, jusqu'à 6 ans. Et il y a aussi une épreuve de vocabulaire. Et là, c'est très curieux parce que on constate que des enfants ont un bon vocabulaire, mais ils ne savent pas définir des mots ordinaires. Le mot courant et banal, ils ne savent pas le définir. Mais le mot très compliqué, oui. Alors on dit, ah ben c'est curieux, il ne sait pas définir, lui, il sait définir que les choses compliquées. Mais en fait, le mot qu'on utilise au quotidien, ils n'ont jamais demandé la signification. Ils le savent, ils la connaissent, la signification. Tandis que le mot compliqué qu'ils entendent, pour la première fois, ils demandent la signification, on leur dit, et ça va, c'est intégré, c'est assimilé. Mais le mot, par exemple, une table, s'ils n'ont pas encore le concept, s'ils sont trop petits pour avoir le concept, ils ne peuvent pas dire que c'est un meuble. S'ils disent c'est pour manger, ça s'applique à la fourchette, au couteau, ça s'applique à beaucoup de choses. Donc ça n'est pas ça, ça n'est pas précis. S'ils disent c'est pour travailler, ça c'est pas précis non plus. Un ordinateur aussi, c'est pour travailler. Donc ils n'ont pas. Alors ils finissent par dire qu'ils ne savent pas. Alors que le mot compliqué. Ils le savent parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas, donc ils ont la signification, ils sont bons, ils intègrent et ça va. Et les mots ordinaires, simples, courants, ils ne savent vraiment pas les définir. Et j'ai remarqué aussi, vraiment, les mots compliqués, ils les. Alors je demande toujours s'ils ont des chiens, enfin des animaux domestiques. Oui, s'ils ont un chien, je demande la race du chien. Et avec beaucoup d'assurance, ils me disent, bah c'est. Alors je. Parce que des Golden Retriever, ils me disent ça avec beaucoup de naturel, des Golden Retriever, ils sont contents, bon ou pas. Mais par exemple, s'ils ont un chat, je demande quelle couleur. Et là, ils ne savent pas. Ils me disent marron, alors un chat marron c'est très rare, donc c'est pas ça. Ils savent pas, alors les chats c'est tigré, ça a des taches, mais alors là ils savent pas, c'est étonnant, hein, alors qu'ils connaissent toutes les couleurs, à 3 ans déjà ils repèrent les couleurs, ils les repèrent bien, là ils savent pas, mais le golden ça ils savent. Donc c'est, on dit que c'est paradoxal, mais non, ça se comprend. Ce qui est compliqué, ils ont fait l'effort. Et ce qui est le quotidien, ce qui est tous les jours, on ne pose pas la question. Alors là aussi, après il y a similitude. Similitude, donc on demande le point commun entre deux éléments. Et là, c'est un test qui reflète vraiment l'intelligence, c'est la capacité de synthèse. C'est l'agilité d'esprit qui permet de faire le rapport entre deux notions qui, en apparence, n'ont pas de rapport entre elles. C'est, plus tard, ça donne une pensée qui a accès à la philosophie. C'est une agilité intellectuelle et aussi des idées personnelles originales. Et ces similitudes, si chez un enfant doué, similitude n'est pas bon, c'est généralement qu'il y a un blocage. Parce que c'est pas possible qu'un enfant doué ne fonctionne pas là, c'est qu'il y a un blocage, il faut chercher ce qu'il y a. Il y a un blocage. Il faut chercher pourquoi, pas sûr de lui, pourquoi pas sûr de lui. J'y reviendrai, mais c'est souvent des cadets qui ont ces blocages. Et ensuite, il y a la compréhension. Donc compréhension, c'est compréhension des situations de la vie ordinaire, courante. Alors là, ils ont rarement 19, rarement une bonne. Ils ont 14, 15, 16 au mieux, parce qu'ils se méfient d'eux. Ils savent que ce qu'ils vont dire ne sera pas forcément compris. Qu'ils vont pas. Alors ils cherchent la réponse qu'on attend de la part d'un enfant de leur âge. Alors ils tombent juste ou ils tombent pas juste. Et maintenant, ils ont le système, le refuge, ils font la réponse politiquement correcte, du style, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour la Terre, ça pollue. Alors quand ils savent pas quoi dire, ils disent ça pollue ou c'est pas bon pour la Terre, en se disant qu'ils ont une chance de tomber juste, puisqu'on en parle beaucoup, et que, en même temps, ça fait bon effet, quoi, ça veut dire qu'ils s'intéressent vraiment à la planète. Mais ils n'y croient pas plus que ça. Alors voilà, ça c'est le verbal, où très souvent ils dépassent le 155, qui est le QI maximum pour le verbal. Verbal, raisonnement perceptif, c'est sur 155. Les deux autres, mémoire de travail, vitesse de traitement, c'est sur 150. Il faut vraiment le savoir. Et global, c'est sur 160. C'est clair ce que je dis. C'est-à-dire, c'est le maximum. Et là, en verbal, il dépasse vraiment le 155. On peut calculer en comparant à une population d'enfants d'un an de plus. Et ils ont 145, à peu près, en comparant à une population d'un an de plus, ce qui à cet âge-là va très vite. Ça veut dire que quand on demande un saut de classe, s'il n'y a pas de trouble, enfin il n'y a rien qui ne va pas ailleurs, quand on demande un saut de classe pour un enfant, il aura 148 comparé aux enfants de sa classe d'âge, il est encore dans les, même pas 1 pour 1000, donc on peut vraiment accepter le saut de classe. Et ce langage s'enrichit de plus en plus. C'est quelque chose qui s'enrichit tout seul. Plus on connaît de mots et plus on est capable d'en assimiler d'autres, d'en comprendre, de poursuivre des idées, de les approfondir. Le vocabulaire, le langage enrichit la pensée. Et c'est en plus le meilleur moyen de communication, bien sûr. Et quand ils découvrent justement ce langage, ils ont tendance à en user, en abuser, en négociant beaucoup, parce qu'ils ont découvert le pouvoir du langage. Donc c'est quelque chose de... D'une façon générale, le pouvoir du langage est assez étonnant. Là, il n'y a qu'à voir les discours des gens. Il y a des discours qui passent et des discours qui endorment. Donc on passe au raisonnement perceptif. Alors, raisonnement perceptif, il y a de tout. C'est-à-dire que ça peut être soit bon, c'est des enfants qui n'ont aucune difficulté d'orientation dans l'espace, ils sont parfaitement à l'aise. L'épreuve phare, c'est l'épreuve des cubes. Il faut reproduire des modèles avec des cubes. Et c'est un peu plus difficile que ça, parce que les cubes ont deux côtés unis et deux côtés moitié rouge, moitié blanc. Donc les modèles sont un peu plus complexes. Et là, on a de tout. Il y a des enfants qui sont ravis, ça les amuse. Ils voient un défi à relever, parce que ça, ils aiment, et ils le font très bien. Et puis, il y a des enfants qui n'y arrivent pas. Alors, quand ils n'y arrivent pas, il faut vraiment savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont émotifs, qui ont tellement l'habitude de faire les choses vite et bien que là, quand ils n'y arrivent pas, ils paniquent complètement, ils sombrent, ils basculent, ils se découragent, ils se dépriment, ils font semblant pour donner le change, pour montrer qu'ils ne sont pas fâchés, mais ils font semblant. Ou alors, ils sont vraiment tellement affolés qu'ils ne font même pas semblant, mais ils tournent le... Alors, c'est agaçant parce que... Quand c'est moitié-moitié, il suffirait d'un quart de tour, mettons, sur la gauche. Pas du tout. Il tourne à droite trois fois, et après, comme il voit qu'il n'y arrive pas, il repart dans l'autre sens. Alors, le temps passe, et le psychologue, c'est un suspense. Et donc, là, ceux-là, ils paniquent, ils ont une mauvaise note, mais la mauvaise note, ils auraient pu avoir une meilleure note s'ils avaient moins paniqué. Il y en a qui ont vraiment des difficultés. Ils regardent, ils font quelque chose, c'est pareil, ils disent oui, c'est pareil, non, c'est pas pareil. Alors, quand c'est le WPPSI, ça se remarque moins parce que les premiers modèles, c'est des cubes rouges et blancs et c'est beaucoup plus facile. Donc ils y arrivent, donc ils ont une note correcte. Mais là, un enfant qui a 19, 17, 18, 19 au verbal et qui a 12, 13 au cube, quand je vois des comptes rendus, on dit qu'il se débrouille bien. Non, ce n'est pas bien. Non, c'est un signal d'alarme. Il ne faut pas les négliger. Et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que si on le néglige, les conséquences ne se voient pas au début et elles se voient à long terme. Elles se voient quand les enfants ont 12, 13 ans, que là, surtout en calcul, on dit qu'ils sont bons en calcul, ils sont bons en calcul pour une opération, mais ils ne savent pas comprendre un énoncé. C'est la représentation mentale d'une situation, c'est très, très important. Il ne faut surtout pas le négliger, ça. Et il y a des parents, je les mets en garde, je dis faites attention, je donne des conseils. Et les parents... trouvent qu'à l'école ça va bien, qu'ils sont bons en calcul, qu'on verra bien, il sera toujours temps de voir. Et ils téléphonent justement quand l'enfant a 12-13 ans, affolé, en disant ça va plus du tout à l'école, il avait un très bon niveau, et puis maintenant ça va plus du tout, il comprend plus. Alors, on peut partir dans des spéculations, c'est pas la peine de partir dans des spéculations, c'est qu'il a atteint ses limites de ce qu'il pouvait faire. Les enfants doués sont très doués aussi pour donner le change. Il y a des enfants dyslexiques, on s'en aperçoit quand ils ont 13 ans, jusque-là, ils ont donné le change. Et le meilleur exemple que j'avais vu, c'est des gens qui sont nés un peu avant la guerre et qui avaient 6 ans au moment de la guerre. Et il y a eu l'exode, et c'est des enfants qui ont été trimballés, ils ont été 3 mois dans une école, ils ont été à la campagne, 3 mois dans une autre. Bref, ils n'ont pas appris à lire. Et j'ai deux exemples comme ça de gens que je connais, qui n'ont pas pu apprendre à lire. Et ils ont donné le change... Pendant jusqu'à 9 ans, ils ont donné l'échange pendant les 3 premières années. Ils ont réussi. Comment ? Alors, j'ai une amie et un psychologue scolaire avec qui je travaillais. Comment ils faisaient ? Ils apprenaient par cœur. Tout ce que la maîtresse disait, ils l'apprenaient comme ça. Et ils ont réussi à masquer le fait qu'ils ne savaient pas lire jusqu'au moment où ça c'était plus possible. Et donc, bien sûr, c'était des gens doués. C'est pour dire à quel point les gens doués peuvent donner le change, les enfants doués. C'est spontané, hein. Ils trouvent des solutions de remplacement, quoi. Ils trouvent quelque chose. Alors, pour les cubes, on dit que c'est un des tests les plus saturés en facteur G. Le facteur G, c'est le facteur d'intelligence générale, de même que les similitudes. C'est très saturé. On parle d'un test, par exemple, répéter des séries de chiffres, ça n'est pas très représentatif de l'intelligence, ça n'est pas saturé, mais c'est une formulation, une formule technique. Mais enfin, on dit un item est plus ou moins saturé en facteur G. Et le cube, les cubes sont très représentatif de l'intelligence. Ceci dit, il y a des gens très intelligents qui ont des difficultés spécifiques d'orientation dans l'espace et qui ratent. Mais ils sont quand même très intelligents. Mais si quelqu'un rate tous les tests et réussit les cubes, il a un bon niveau intellectuel. C'est vraiment significatif. J'avais vu une fois une petite fille qui était... Je travaillais dans une école de sourds, et c'était une petite fille qui était née dans la brousse, qui avait passé son temps, elle avait 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça, et elle avait une mère africaine et un père qui était de passage, et tout d'un coup le père de passage s'est souvenu qu'il avait une petite fille, et il est retourné la voir, et il a vu qu'elle était sourde, et du coup il l'a rapatriée en urgence en France, il l'a mise dans un internat, mais cette petite n'avait pas été scolarisée du tout, et... Elle avait très bien réussi les cubes et les potes. Donc j'avais dit qu'elle était très intelligente, alors qu'elle n'avait rien, elle n'avait aucun acquis scolaire. Et c'est vrai que ça a été fantastique, c'était fulgurant sa progression. Une fois qu'elle a été prise comme ça en charge, qu'on a su lui expliquer, prendre en compte sa surdité et échanger, ça a été fulgurant. Et les cubes étaient vraiment très, très significatifs pour ça. Mais ceci dit, on peut rater les cubes et être très intelligent, hein. Ça peut aussi être la coordination main et œil. Ça se voit, on voit comment ça se passe. La coordination entre la main et l'œil. La main est maladroite, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils voient, ils n'arrivent pas à le faire, ils ne comprennent pas. Alors il y en a qui se découragent, donc il y en a qui se mettent en colère. Surtout les jeunes, ils balancent les cubes, ils se mettent en colère. Voilà. Il faut absolument s'en occuper. Il ne faut absolument pas laisser passer ça. Alors, je donne comme conseil, il y a un jeu qui s'appelle Tangram. Vous connaissez sans doute. Hein, c'est des morceaux de bois qui ont des formes carrées ou bien rectangulaires ou en triangle. Et il y a des modèles qu'il faut reproduire. Alors, il y en a qui sont un peu trop faciles parce que dans les modèles, il y a c'est dessiné. Si, il faut mettre un carré ou un triangle. Tandis que d'autres, ça n'est pas dessiné et c'est vraiment difficile. Et ça, c'est très bon. Mais... si on a plusieurs enfants et qu'il y en a un seul qui a des difficultés, il ne faut surtout pas qu'il fasse ça devant les autres, parce que les autres vont se moquer de lui et ça ne va pas arranger les choses. Donc je conseille les tangrammes. Si vraiment il y a une maladresse motrice globale, il faut faire une rééducation de psychomotricité. Il y a des rééducateurs de psychomotricité, ça... Mais il faut qu'ils connaissent les enfants doués, parce que les enfants doués se défendent, ils apprennent par cœur des mouvements, des exercices, puis voilà, ils feront très bien ce qu'ils ont appris. Mais... Et puis, il y a aussi, j'ai lu un article, en préparant ça, j'ai lu une interview d'une orthophoniste qui disait qu'il faut aussi se repérer sur son corps. Mais si vous leur dites, tu mets ta main droite sur ton épaule gauche, vous voyez comment ça se passe. Déjà, se repérer sur son corps. Et là, c'est encore plus difficile s'ils croisent les jambes, on croise les jambes, et alors là, on demande main droite, pied gauche. C'est un peu une salade. Et ça, c'est très bon de se repérer sur son corps. Mais ceux qui ont ces difficultés-là, les indices sont des enfants qui ont eu du mal à apprendre à lire l'heure, qui ont eu du mal à se repérer dans les jours de la semaine, dans les mois avant, au WISC, je ne sais plus quel numéro, on demandait les quatre saisons. Et ceux qui, normalement, auraient dû savoir, parce que depuis la maternelle, on leur serine les saisons, ceux qui auraient dû savoir et qui ne savaient pas, ils ont généralement des difficultés. Il y a des petits indices comme ça, l'heure, les jours de la semaine, hier, demain, avant-hier. Mais on peut très bien se repérer dans le temps et pas dans l'espace. Vraiment, il y a de tout. Il y a le matrice, qui est logico-mathématique, quatre cases, trois dessins, trouver le dessin qui va dans la quatrième. Ceux qui ont des difficultés n'y arrivent pas non plus. Ils n'intègrent pas des notions de symétrie. Par exemple, si vous avez quatre flèches qui formeraient un X, il faut trouver la quatrième avec le modèle en dessous. Ils ne trouvent pas, ils montent parallèle en disant mais si, c'est la même chose, ils ne comprennent pas. C'est le signe qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Alors, mais ça s'arrange, hein. Mais ça ne s'arrange pas tout seul. Ça s'arrange, mais pas tout seul, certainement pas tout seul. Parce que bon, les gens trouvent des moyens compensés, mais il ne faut pas compenser. Bon, il y a identification de concepts, donc trouver la similitude entre des dessins, parmi d'autres. Et là, c'est très sensible aux émotions. C'est, pour eux, chaque dessin a sa signification. C'est des jouets, des objets, des choses familières ou pas familières. Ils sont perdus au milieu de tous ces dessins. Quand ils sont particulièrement comme ça, émotifs, sensibles, ils perdent pied vite. Donc, on peut avoir de très grandes différences entre verbal. Verbal est pratiquement toujours bon. S'il n'est pas bon et que le que raisonnement perceptif est meilleur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il faut vraiment là faire une investigation approfondie. Mais là, si la différence, on ne dit pas, ben, c'est la fameuse dysynchronie dont parle Jean-Charles Terrassier. C'est peut-être la fameuse dysynchronie, mais il faut faire quelque chose parce que ça ne s'arrangera pas. Donc c'est la représentation mentale d'une situation. Voilà, on a une bonne représentation mentale. Ça permet les langues étrangères, et puis surtout en maths, en géométrie. Ensuite, il y a mémoire de travail. C'est du jargon, hein, tout ça, raisonnement perceptif, c'est du jargon. Mémoire de travail, alors ils disent qu'ils ont une bonne mémoire, il faut répéter des chiffres, ils abordent ça tout guigré en disant « là, ça va, j'ai une bonne mémoire », et ça ne va pas, parce qu'ils répètent comme un perroquet, et ils ne font aucun effort. Donc, ça ne va pas, et... J'avais vu un petit garçon qui avait complètement échoué, et il s'étonne eux-mêmes hein, d'échouer. Et les parents me disent « Ah, il a une mémoire formidable, il a la passion du rugby, il connaît les résultats du tournoi Destination, remontant à quasiment avant sa naissance. » Et ben, c'était pas bon du tout, le rugby, ça l'intéressait. Donc, ce qui les intéresse, ils le retiennent. Ce qui a un sens, ils le retiennent. Une poésie qui va pas très loin, ils la retiennent. Mais la mémoire comme telle, ils la retiennent pas du tout. Et ça, il faut vraiment le travailler. Déjà, on peut le travailler avec les tables de multiplication, qui vaut mieux qu'ils apprennent, parce que s'ils ne la savent pas, dans les cas de contrôle, par exemple, dès qu'il y a un peu de stress, ils l'oublient complètement. Si elle est automatisée, elle est automatisée. Mais sinon, même le test, 3 x 8, 21. Alors, je prends l'air interrogateur, et il persiste, c'est-à-dire que 3 x 8, ça fait 21. Donc... Il vaut mieux quand même éviter que ça soit aussi labile. Enfin, il faut que ça soit vraiment complètement intégré. Et alors, cette mémoire, il y en a qui s'accrochent, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des difficultés, et là, ils cherchent des moyens, ils s'aident de leurs doigts, ils se répètent les chiffres, enfin, ils cherchent des moyens. Ceux-là sont sauvés, je pourrais dire. Mais ceux qui s'étonnent et qui conduisent sur leur mémoire, ça n'est pas bon. Ils ont... Alors, c'est l'exemple que je sors, dont je parle chaque fois, mais parce que je le trouve tellement emblématique. Il y a les gens doués, souvent, j'ai dit hier, quand j'ai parlé à Mensa, qu'il y a une générosité, souvent, ils ont envie d'aider les autres. Et ils ont des dons, ils sont attirés par la médecine. Ils veulent être médecins, et c'est vraiment une vocation, quasiment. Et quand ils arrivent en médecine, les deux premières années, il faut apprendre par cœur, apprendre. Ça n'a pas forcément du sens. C'est compliqué. Les examens, c'est sous forme de QCM, hein, questionnaire à choix multiples. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rattraper en parlant, il faut cocher. C'est catastrophique. Ils s'effondrent. Et là, ils s'effondrent et c'est leur avenir qui est fracassé. Et après, il faudra... ramasser les morceaux. Alors, il y a beaucoup de mères qui m'appellent en disant, voilà, mon fils voulait faire médecine, et bon. Et où les gens eux-mêmes, alors, ils font du droit, ils ne savent pas quoi faire, ils sont perdus. Et c'est quelque chose, ils gardent une amertume, ils auraient aimé faire médecine, c'est resté dans le fond de leur... Et ça, c'est vraiment uniquement parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas exercé leur mémoire. Alors, c'est vraiment dommage. Alors, l'autre item, c'est mémoire, excusez-moi, lettres et chiffres, que je trouve très fastidieux, parce qu'il faut répéter des lettres et des chiffres en série en remettant dans l'ordre. Je fais arithmétique à la place qui est licite. On peut remplacer un des items. Et là, on voit vraiment comment ils raisonnent. De même qu'au WPPSI, on a supprimé arithmétique. Je ne sais vraiment pas pourquoi, je le fais quand même. Ça ne compte pas dans le calcul du QI, mais c'est intéressant de savoir si un enfant de 4 ans ou 5 ans, où il en est, la numération d'objets, la conception du nombre, la notion de plus, de moins, c'est quand même important. Et normalement, un enfant doué comprend très très vite, en plus, en moins, les notions. S'ils ont deux billes, ils en perdent une, combien il en reste, ils comprennent. Ça va avec les cubes. Hein. S'ils ont des problèmes aux cubes, ils ont des problèmes en arithmétique, même à cet âge-là. Voilà. Alors, donc c'est la... Alors, ils sont bons en calcul, je disais, puis dès que ça devient arithmétique, ils sont perdus. Alors, avant, quand c'était le WISC 3, le verbal était rarement au-delà de 155. Il était bon, parce qu'il y avait arithmétique et mémoire des chiffres qui est quand même plus bas, donc qui pondérait l'ensemble. Mais maintenant que c'est purement verbal et que les deux items sont en dehors, c'est comme ça que le verbal est très bon et les autres, quand ils ont 130, on considère que c'est très bon. Mais la moyenne, ça baisserait. Alors oui, il y a un psychologue dont j'ai oublié le nom qui dit qu'on peut calculer le... Alors, on peut avoir une bonne image du cuir en n'utilisant que les 6 items, 3 verbales et 3 raisonnements perceptifs, en laissant de côté les autres. Et que c'est une façon plus rapide d'appréhender le QI et que ça donne une image assez, assez fidèle. Alors, le dernier item, dernière échelle, c'est vitesse de traitement. Donc, c'est la catastrophe. Donc, tous, vous avez fait tester vos enfants. C'est généralement la catastrophe, quand même pas que j'exagère. Là, tout d'un coup, les gosses, je dis, qu'ils semblent perdre tout dynamisme. Ils ont l'air débiles, ils regardent en l'air, ils retournent la feuille, ils demandent si on va faire ça longtemps, ils redemandent la consigne, alors que la consigne est vraiment pas facile, pas difficile. Il y en a qui sont rassurés parce que là, la difficulté ne va pas en croissant. C'est toujours la même chose, ça les rassure et là, ils foncent. Surtout les symboles, ils foncent. Ça peut être aussi un item qui permet de découvrir un enfant astigmate ou qui a un problème de vision. Mais comme c'est des... Enfin, vous connaissez, je pense, hein, ce sont des signes qui n'ont pas de signification, soit les recopier sous des chiffres, soit déceler dans une ligne si le signe ou un des deux signes qui est placé en début de ligne se retrouve dans la ligne. Et là, c'est des signes donc, qui n'ont pas de sens. Ça peut être des angles aigus, des carrés, des choses comme ça. S'ils sont astigmates, ils voient mal certains axes et ça les dérange. Il y a des enfants dont on repère qu'ils sont astigmates grâce à ça. Mais la plupart du temps, Jean-Charles Terrassier dit ça ne nécessite pas de l'intelligence, ça les ennuie. Il y a ceux qui ont les problèmes de graphisme. Alors les problèmes de graphisme sont parfois massifs. On dirait qu'ils ne savent pas écrire et dans les cahiers ça s'aggrave. Pour peu qu'ils aient une maîtresse exigeante qui leur reproche ce graphisme, ça s'aggrave terriblement. Donc le mieux, dans ce cas-là, si c'est vraiment grave, il faut avoir recours à une graphométrie. Graphothérapie. Une fois, j'avais un graphothérapeute à qui j'envoyais des enfants qui m'avait dit, si vous faites une conférence, j'aimerais venir, donc ça se passe. Et je lui ai demandé de parler, et elle a dit que parfois, le bilan suffisait. Que le bilan d'un enfant qui a ses problèmes, quand on lui permet d'aborder l'écriture d'une autre façon, qu'on dédramatise, qu'on détend, ce bilan suffit pour améliorer l'écriture. Donc, n'hésitez pas à faire appel à une graphothérapie, parce que c'est comme les cubes, ça passe pas tout seul. Après, ils sont trop élans, alors ils n'en finissent pas. Et j'avais vu un adolescent charmant, mais vraiment charmant, qui était dans un internat en France où il y a des enfants doués. Et il m'avait dit, mais bon, il avait vraiment un QI très élevé, il était plein d'humour, et il avait écrit même un petit livre qu'il m'avait envoyé, qui était excellent. Et il me dit, mais je suis lent pour écrire. Je lui dis, ben, je suppose que dans ta classe, vous n'êtes pas le seul, t'es pas le seul. Et je lui dis, bon, le professeur explique quelque chose en maths, vous comprenez tout de suite, vous posez des questions, c'est tout de suite intégré, ça vous passionne. Puis là-dessus, il écrit 3 lignes au tableau, il dit, vous recopiez les 3 lignes et je reviens dans une heure. Et c'était à peu près ça, oui. Tous comme ça, lent. Mais lui me dit, mais je suis encore plus lent que les autres. Et c'est pour ça que quand ils sont ensemble, ça les va. Alors, voilà. Mais quand ils ont 120, par exemple, à la vitesse de traitement, moi, j'admire, hein, parce que c'est tellement rare que j'admire. Je calcule comme ça, pour avoir une idée, le QI avec vitesse de traitement et sans vitesse, et ils ont 10 points d'écart. C'est-à-dire en moyenne, hein, en moyenne. Alors, ce que le test peut apporter, je crois qu'il faut tout prendre en note. Je le donne, quand je parle au psychologue, je leur dis qu'il faut tout prendre en note. Même les intuitions qu'on a, même si on se trompe, on s'aperçoit après qu'on s'est trompé, il faut quand même tout prendre en note. Et ce qu'on voit, on voit des choses qui n'apparaissent pas dans le quotidien. Par exemple, une thérapeute m'avait envoyé, elle habite en province, on se connaît par téléphone, m'avait envoyé un garçon qui l'a laissé perplexe, et je vois au test que dès qu'il rate, dès qu'il a peur de rater, il est envahi par une colère, mais une colère explosive. Mais c'est vrai qu'en thérapie, ça ne se voyait pas. Il voyait une dame gentille, qu'il aimait bien, il faisait un beau dessin, tout allait bien, ça ne se voyait pas. Mais au test, ça se voyait, cette colère. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit, mais est-ce qu'on t'en parle? Non, personne ne lui en parlait, parce qu'il ne la montre pas. Mais au test, ça se voit, on sent la tension, on sent quelque chose qui monte comme ça. Mais sinon, comme il n'explosait pas, qu'il refoulait tout, ça ne se voyait pas. On voit des pentes, parfois ceux qui se découragent, ça donne l'impression qu'ils sont sur une pente savonneuse et qu'ils vont vers un gouffre qui les aspire et qui n'a rien à faire. Ils ne peuvent rien faire. C'est fini. Leur vie est finie. Ils ont atteint leurs limites. Les enfants doués ont toujours l'angoisse d'atteindre leurs limites. Ça, c'est quelque chose, pour les adultes aussi d'ailleurs, c'est quelque chose, là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Et où sont les limites? Et c'est pour ça que quand au cube, ça ne marche pas, ils ont l'impression qu'ils ont atteint leurs limites. Et c'est le désespoir. Enfin, c'est catastrophique. Cette idée de limite, ils n'ont pas l'idée pourront les repousser, comme ils n'ont pas la notion d'effort, comme ça, pas tous, enfin. Ils n'ont pas l'idée qu'ils peuvent repousser, atteindre une limite, c'est quelque chose, ça y est, c'est un mur, on ne peut pas pousser le mur, c'est un mur de granit, c'est fini. Donc il y a ceux qui se dépriment vite, qui perdent courage, puis il y a ceux qui réagissent, il y a ceux qui aiment relever un défi, qui disent c'est difficile, mais je vais y arriver. Et cela, c'est... ils ont tonique et cela, ils ont de la chance, ils ont plus de chances de s'en sortir. Donc le test montre tout ça. Mais justement, c'est à ces occasions-là qu'on voit ceux qui ont le sens de l'effort instinctivement et ceux qui ne l'ont pas, il faut le donner parce que ceux qui disent c'est difficile, mais je vais essayer, qui y arrivent, ils savourent leur victoire. Et je parle du goût inimitable que procure la victoire remportée sur un obstacle plus difficile. Quand je parle de ça, les enfants qui n'ont pas le sens de l'effort ignorent aussi ce goût inimitable, ce plaisir qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on saute une classe, ça leur permet de s'affronter à des difficultés, ça leur permet d'apprécier cette victoire. C'est dommage de les priver de ça, de les priver même plus tard. On sait qu'on peut affronter quelque chose et ces défis qu'on se pose à soi, on peut les relever. Ça, c'est important, ces défis. Il faut avoir envie de se poser des défis. Donc voilà, tout ça, ce sont les tests. Alors j'espère que je n'ai pas été trop longue, que vous n'avez pas l'impression que vous saviez tout ça. Mais la lecture des résultats des tests pour un enfant doué est très enrichissante. Il faut vraiment connaître toutes les notes et aussi... item par item, et aussi savoir tout ce comportement, tout ce que ça révèle. Alors, maintenant, faut-il tester les frères et sœurs? Alors, spontanément, la réponse est oui. Pour différentes raisons. D'abord, ce qui est très important, c'est la place dans la fratrie. Quant à les aînés, il y a eu des études statistiques qui ont montré que les aînés avait statistiquement un QI plus élevé que ceux qui suivaient. Mais ce que je pense, c'est que les aînés, outre qu'ils sont plus attendus, plus choyés, qu'on s'occupe plus d'eux, eh bien, ils ont aussi le fait qu'il n'y a pas d'obstacle. Ils ont la voie ouverte, enfin, c'est ouvert, ils ont. Et il y a aussi une autre raison plus subtile qu'on ne dit pas, mais moi, qui me semble... ils ont plus vite... la notion de se contraindre, de s'obliger, de faire des sacrifices. Ils ont plus vite cette notion de discipline parce qu'il faut tenir compte des cadets. On dit tu es raisonnable, tu prends sur toi, et puis ils ont des responsabilités. Donc ça aussi, ça permet de ces contraintes-là, le QI est plus élevé quand on apprend une certaine discipline à s'imposer. Et alors... en même temps, ce qui se passe, c'est que les aînés écrasent souvent. Les aînés écrasent souvent les cadets. Il y a longtemps, j'avais pris l'image d'un camion. Ils sont derrière un camion. Donc, ils ne peuvent pas doubler le camion. Mais ils ne voient pas. Mais il faut rouler à un rythme qui n'est pas le leur. Et s'ils doublent le camion, il y a un danger. cette notion de danger est telle qu'il y a des terreurs nocturnes d'enfants qui s'expliquent par la peur qu'ils ont d'un aîné. C'est vrai quand la différence d'âge n'est pas grande. C'est-à-dire que quand l'aîné a encore un côté primitif et instinctif et qu'il y a un intrus qui débarque, il a tout bonnement envie de le tuer. Mais bien sûr, il ne le dit pas, il sait que ce n'est pas bien. Mais quand il se penche sur le berceau et qu'il regarde le bébé, il a vraiment envie de le tuer. Et le bébé le ressent, le reçoit 5-5. Mais le bébé, il est dans son berceau, il ne veut pas bouger, il ne peut pas se défendre, ce n'est pas avec son petit hocher qu'il va se défendre. Donc, le bébé, il se sent en danger de mort. Il a ressenti tout ça, ça passe d'inconscient à inconscient. Parce que même l'autre, si on lui dit « t'es pas content », il va dire « ah non, 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 je suis très content d'avoir un petit frère ». Il est déjà politiquement correct. Et ça donne des terreurs nocturnes. J'ai déjà vu des enfants qui... J'avais vu un petit garçon, il était plus bébé, mais il avait des terreurs nocturnes. Et c'est drôle parce qu'il avait une petite sœur, enfin une grande sœur qui est adorable. J'avais vu, elle était belle comme tout, gentille, mignonne, vraiment une merveille. Bon, pas du tout. Elle est qu'avec le petit frère, c'était certainement pas une merveille. Et j'avais dit, alors le bébé ne parlait pas trop, mais il faisait ses dents. Et j'avais reçu la mère et j'avais dit devant le petit enfant, le petit garçon, la sœur n'était pas là, bien sûr. J'avais dit, mais tu peux te défendre, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, tu as des dents. Et après, j'ai vu la petite fille. Alors, ça l'empêchait de... Enfin, non, elle poussait les dents. Et j'ai vu la petite fille qui m'a dit « Il m'a mordu. » Et j'avais trouvé ça magnifique, parce que n'empêche que ces terreurs nocturnes, elles sont passées. Parce qu'il avait une défense. Il avait ses dents. Mais on imagine, on n'y pense pas, mais les terreurs nocturnes, il faut... Ça peut être ça, c'est pas forcément ça. Mais ça peut être ça. Hein. Surtout que la différence n'est pas grande. Donc, quand un cadet est dans cet état-là, vous pensez bien qu'il n'ose pas aller trop loin. Il s'écrase complètement. Et les parents disent, oh, ben oui, l'aîné, bon, formidable, mais oh, ben là, le second, c'est pas du tout le même genre. On va peut-être faire un test, mais vous allez voir, c'est pas le même genre. Et je vois généralement des cadets beaucoup plus introvertis, mais intensément observateurs. On sent qu'ils regardent et qu'ils veulent tout savoir, tout apprendre, mais ils intègrent, mais ils ne sortent pas. Ils ont parfois des QI plus élevés encore que l'aîné. Et là, les parents sont sidérés. Ah, je n'aurais jamais cru. Mais ce qui aussi empêche les parents d'en tester un second, c'est qu'ils se disent, peut-être qu'il n'aura pas un aussi bon QI. Et comment on va gérer ça? Et on va être déçu. Et ils préfèrent rester dans l'expectative. Mais ça n'est pas très bon, parce que les enfants savent qu'un a été testé, pas l'autre, ou pas les autres, et ça stigmatise en quelque sorte les deux. Celui qui a été testé, ah ben lui, il est surdoué, il est un peu anormal, il est à part. Ou alors ça stigmatise celui qui n'a pas été testé, ben lui, il n'est pas considéré comme intelligent. J'ai eu des coups de fil d'adultes dont j'avais vu en test le frère ou la sœur, et qui voulaient passer un test une fois adulte parce qu'ils n'avaient pas encore digéré cette histoire. Et ils voulaient, une fois qu'ils étaient adultes, qu'ils pouvaient se prendre en charge, ils voulaient passer le test. C'est dire à quel point ça peut être important. Donc, il vaut mieux. Et voilà. Mais, alors, il y a des cadets discrets, mais il y a aussi des cadets qui sont jaloux. On ne pense pas, mais les cadets peuvent être terriblement jaloux de l'aîné. Et à 30 ans, ils sont toujours jaloux. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens en thérapie et de comprendre que les relations difficiles entre frères, c'est que le cadet était jaloux de l'aîné et que ça ne passait pas du tout. Et c'est drôle, je ne sais pas pourquoi on n'y pense pas, parce que c'est évident. Et ces cadets rêvent, mais rêvent dans leurs rêves les plus fous, ne serait-ce que 30 secondes de supplanter l'aîné, de le dépasser. Ça serait 30 secondes de bonheur absolu, oh, s'ils pouvaient le dépasser. Mais ils se disent qu'il n'y a rien à faire, en même temps il y a un danger, en même temps c'est l'aîné leur balance toujours des quantités de... Enfin, les rabaisse, souvent l'aîné rabaisse, il faut prévenir. J'ai eu juste jeudi, donc avant-hier, j'avais vu un petit garçon qui était très mignon, bien sûr, ils sont adorables, et qui avait un QI au-delà de 150, enfin vraiment très élevé. Et puis les parents attendent que l'autre a 6 ans, je fais passer le test à l'autre, au petit frère, et c'est la catastrophe. Il ne sait rien, il ne sait pas, non ça il sait pas, non ça il peut pas savoir. Et à la façon dont il réagissait, c'est qu'il n'osait pas, Et c'était manifestement parce qu'il se sentait tellement nul par rapport à son frère aîné qu'il n'essayait même pas de répondre. Il était résigné dans son... Et j'explique ça et les parents disent « Ah ben oui, c'est vrai que l'aîné se moque beaucoup de lui, l'aîné le critique beaucoup, on va être attentif. » Et puis la mère m'a téléphoné jeudi, donc, et pour que je fasse un papier pour l'aîné, pour qu'il saute de classe. Bon. Et je demande des nouvelles du petit. Elle me dit « Ah, on a été voir un psychologue qui a dit « Mais pourquoi vous l'avez fait tester ? Il a un QI qui est supérieur à la normale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Puis pourquoi la psychologue a dit qu'il avait, il était déprimé, qu'il n'avait pas confiance ? Non, 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 c'est vous, faites essayez de savoir pourquoi vous avez fait ça. » Alors évidemment, elle l'avait vu, il était tout content d'être avec une dame gentille, un dessin, elle lui renvoie une bonne image, il était très content. Et il n'était pas dans la situation de test où il doit faire ses preuves. Le test, il faut faire ses preuves, c'est ça qui est caractéristique et qui permet de savoir beaucoup de choses. Donc, les parents ont géré par eux-mêmes, ils ont fait la morale aux grands, ils ont boosté le petit pour qu'il se requinque, et puis ça s'est arrangé comme ça, ça va à peu près. Mais s'il n'y avait pas eu le test, on ne se serait pas aperçu que ce petit était, que le cadet était dans un tel état de mauvaise image de soi, de quasiment dépression et d'aucune confiance. Bon, je suis nulle. Et son frère lui surinait tout le temps, mais après, à 30 ans, il dira toujours je suis nulle. Et non, ça freine l'audace intellectuelle, ça empêche de parler en public, ça empêche de faire des choses comme ça. Enfin, ça rend la vie plus difficile. Donc, il faut être attentif à ça. Alors, ce qu'on demande, et d'ailleurs, les cadets, quand. Bon, les parents, parfois, préfèrent que ce soit quand même moi qui vois les deux. Et les cadets demandent, alors lui, il a su, et lui, là, il a répondu, lui, il a su. Enfin, ils se mettent tout le temps en rivalité, c'est drôle. Alors, que dire aux enfants dans ce cas-là? On dit qu'ils ont les mêmes résultats. D'ailleurs, souvent, c'est du même ordre de grandeur, sauf, j'ai vu, là, une famille, c'était étonnant, trois frères extraordinaires, mais tous les trois étaient extraordinaires, chacun dans leur genre... Ils étaient vraiment très très bien. Et l'aîné était un très grand prématuré, avait été très longtemps en couveuse. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose, mais les cubes n'étaient pas bons. Il avait de sérieux problèmes, alors que les autres pas du tout. Et qu'en verbal, il était fulgurant. Il avait de sérieux problèmes. Et donc il fallait bien sûr pas le dire. Voilà. Mais ça, vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais sinon, c'est homogène. Hein. C'est homogène. Ou alors, comme ce que je viens de raconter du cadet écrasé, mais le cadet requinqué, regonflé, il progresse. Il ne va pas rester à ses 115 ou 120 comme ça. Il va aller beaucoup mieux, plus loin. Alors, voilà. Donc, je trouve qu'il vaut mieux. Il y a des psychologues qui disent ils préfèrent voir d'autres... psychologues qui disent qu'il vaut mieux que voir d'autres psychologues pour le test... Alors, autant quand c'est une thérapie, là, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas que les deux, la fratrie, aille voir le même psychologue, chaque enfant doit avoir son terrain propre. Mais quand c'est les tests, moi, je vois les frères et sœurs, on connaît l'histoire, on connaît la constellation, alors ça dépend. Ça dépend. Mais parfois, vous n'avez pas le choix, donc il faut voir le même. C'est tout à fait possible, hein, on en parle, moi, je... D'emblée, je dis que je vois énormément d'enfants que j'ai oubliés, que je ne sais pas, que je ne compare pas. D'emblée, je le dis vraiment, en disant, tu sais, j'en vois tellement que je ne peux pas me souvenir. Alors, que dire aux enfants? Eh bien, faut surtout pas dire le chiffre. Ils finissent par le savoir, d'ailleurs, mais il faut surtout pas le dire. Parce que, d'abord, ils demandent sur combien, ça ne veut rien dire. S'ils voient d'autres enfants doués, ils disent « Et toi, tu as combien ?» Et ils comparent, et ça ne veut rien dire. Hein, ça ne veut rien dire. Le chiffre, il faut se dire que c'est un ordre de grandeur. Quand on est dans le bout de la courbe, en plus, ça n'a pas tellement de valeur, parce que les calculs ne sont pas très fiables dans le bout de la courbe. Il y a trop peu de monde. La preuve, c'est qu'au verbal, ils sont au-delà du 155. Il y a vraiment trop peu de monde. C'est... aux enfants, il faut. Moi, je montre une courbe de Gauss et je leur explique qu'ils sont là, qu'ils sont dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, mais que ça peut entraîner quelques difficultés avec les copains, parce que justement, surtout s'ils sont bons lecteurs, les copains pas lecteurs du tout, les enfants ont plus de connaissances, alors ils ont plus de sujets de discussion. Mais que ça les autres, ça sera plus tard. qu'ils ont, une petite fille m'avait dit, mais quand je fais attention quand je parle, parce que moi j'ai un bon vocabulaire, parce que je lis beaucoup, mais quand je parle avec mes copines, je fais attention à ce que je dis. Et les filles s'intègrent mieux. Et on leur explique, on leur dit, voilà, tu as un cerveau qui fonctionne magnifiquement, tu vas pouvoir faire des choses formidables dans la vie. Quand un sujet t'intéresse, tu vas pouvoir travailler là-dessus et tu vas avoir du plaisir, tu vas avoir un bonheur à découvrir des choses parce que ton cerveau peut l'emmagasiner, peut travailler. C'est une chance, mais il faut la sortir. Voilà, c'est une façon d'utiliser son cerveau, mais il faut quand même la sortir du sens de l'effort, puisque vous le savez bien, ce qui manque le plus aux enfants, c'est le sens de l'effort. Et vous avez sans doute lu un texte qui date de 2006, alors il traîne sur Internet un peu partout, où j'explique que le sens de l'effort, non seulement ils ne l'acquièrent pas, mais on ne les pousse pas, puisque à l'école, ils n'en ont pas besoin. Que pourquoi courir quand il suffit de marcher, que les maîtresses elles-mêmes disent aux parents, ne le poussez pas, laissez-le vivre. Alors, il ne vit pas, il s'ennuie. Hein. Mais vraiment, rien n'incite les enfants à fournir un effort, et les parents s'arrachent les cheveux, il faut faire quelque chose. Alors, on dit du sport. Oui, mais enfin, pour les filles, il y a la danse. Alors là, on est tranquille, la danse, c'est jamais assez bien. Alors... on a de la marge. C'est vrai, c'est jamais assez bien. On fait un tour, on peut en faire deux. On fait une arabesque là, elle peut être là. C'est jamais assez bien. Donc ça, l'imperfection dans la danse. Les étoiles, 8 heures de bar par jour. Donc ça va. Mais pour les garçons, le foot, c'est moins rigoureux. Hein. Alors il y a la musique. Souvent, d'ailleurs, ils sont doués en musique, mais ils arrêtent parce que ça demande des efforts. Alors, au début, ça va. Ils sont doués, ils jouent. Puis à partir du moment où ça devient un peu plus difficile, ils devraient faire leurs exercices. Pendant la semaine, ils ne font pas leurs exercices. On arrête parce qu'on dit on ne va pas les embêter avec ça. Ils font déjà beaucoup de choses. Donc, on laisse tomber. Ce qu'il y a, donc, je crois qu'on peut déjà demander des efforts pour la mémoire. On leur explique. Un argument qui fonctionne pour les enfants doués, c'est les connexions. On explique les synapses, les connexions, le système nerveux, comment ça marche. Quand on explique ça, ça, ils le comprennent, ils sont sensibles. On leur dit, mais tu as des aires dans le cerveau qu'il faut travailler, sinon tu auras une aire cérébrale qui sera toute endormie, ça ne va pas du tout. Et ça, c'est souvent un argument qu'ils comprennent, qu'ils les... Et je crois qu'il faut y recourir. On leur montre des synapses, on leur montre à tout ce qu'on veut sur Internet, on leur montre tout ça, et on explique pour qu'ils comprennent. On montre les sportifs, on dit, mais tu vois, ils travaillent, les danseurs, justement, 8 heures par jour, les sportifs qui s'entraînent, je sais pas, il y avait un perchiste français qui a remporté la médaille d'or, je crois, mais on disait qu'il s'entraînait dans son jardin, il s'entraînait tous les jours, il s'entraîne tout le temps. Et on explique qu'on leur demande pas de s'entraîner tout le temps, mais qu'on a rien sans effort, et que ça sera toujours en dessous, ça restera toujours à un étage intermédiaire. Mais si on veut vraiment arriver, il faut fournir l'effort. Et justement, le test montre les failles, et à l'école aussi, on a tendance, c'est une matière qui ne fonctionne pas bien, on a tendance à passer en disant tout le reste est très bon. Ben non, justement, il faut travailler cette matière pour que tout soit homogène. C'est vraiment, on passe pas sur les faiblesses. C'est pas qu'on soit exigeant, hyper exigeant, et qu'on vise l'excellence. C'est que on veut un développement harmonieux et qu'il n'y ait pas de faille. Et l'absence d'effort, du sens, la méconnaissance du sens de l'effort, c'est pas une faille, c'est un gouffre, hein, c'est le Grand Canyon, c'est terrible. Il se fracasse dans cette... Je parlais d'étudiants en médecine, mais dans d'autres matières. Par exemple, ceux qui arrivent en prépa, où ils ont eu le bac sans rien faire, vraiment, pas vraiment, et ils arrivent en prépa, et là, la prépa, ça bascule complètement, et ils craquent, ils font des dépressions, ils craquent. J'ai vu des jeunes gens ou jeunes filles dans un état catastrophique, parce que là où c'est dramatique, j'en ai vu une, c'est dramatique, elle venait de province et elle avait eu son bac avec archi-mention, enfin au-delà, elle était maximum au bac. Et elle fait une prépa Henri IV ou Louis-le-Grand, je ne sais pas, en internat, puisqu'elle venait de province. Et là, elle a été perdue, elle ne comprenait plus rien, elle ne savait plus rien. Elle avait finalement jusque-là, elle n'avait pas fait d'efforts. Elle n'avait pas eu besoin de faire d'efforts. Même pour avoir son bac avec ses mentions, hein, elle n'avait pas vraiment fourni d'efforts. Et bien, quand elle a dû le faire, c'était catastrophique. Et elle a dû arrêter. Elle pleurait. Elle ne faisait que pleurer. Et j'ai vu d'autres gens qui me disaient « Mais je me suis accrochée, mais j'ai souffert. » Et donc, il vaut mieux attendre, pas attendre qu'ils en arrivent là. Il faut vraiment donner ce sens de l'effort. Parce que quand on dit... un tiers, un tiers qui réussit très bien, un tiers moyen et un tiers échoue, ce n'est pas une fatalité, c'est pas les oiseaux migrateurs, il y en a tant qui vont mourir statistiquement, c'est pas une donnée statistique. Ceux qui échouent, c'est ceux qui n'ont pas été identifiés, c'est ceux qui, dont on ne s'est pas occupé, c'est ceux à qui on a fait confiance en disant ben, il est doué, il s'en sortira toujours. Ça, c'est une phrase bateau qu'on sort tout le temps et qui veut rien dire parce que c'est pas vrai. Et il faut être derrière. Et justement, hier, quand je parlais, on me disait mais. Que sont devenus ceux que vous avez vus ? Parce que maintenant, j'ai du recul. Et je vois les enfants d'enfants que j'ai vus, des gens que j'ai vus enfants. C'est toujours très émouvant parce que j'ai souvenir d'enfants comme ça. Et je vois des adultes installés, mariés, parents. Et tout le monde est ému. Eux, moi, le gosse, enfin, tout le monde. Le conjoint, enfin, tout le monde. On a l'impression que c'est quelque chose de très, très prenant. La première fois, je sais que ça m'avait terriblement excitée. Maintenant, je suis blasée, mais la première fois... Ah. Et donc, ces enfants, bien sûr, ils ont été testés jeunes, ils ont été identifiés, ils avaient des parents attentifs, puisqu'ils sont venus voir une psychologue en privé pour tester, et ben, ça donne très bien. Ça donne des enfants qui ont fait des études, qui, sachant comment ils étaient, ont choisi des... trouver des conjoints avec qui ils s'entendaient bien, se sont pas précipités, se sont renseignés, ont su que c'était plus difficile. C'est le plus difficile. Bon, c'est pas le propos ici, mais j'en ai parlé, mais c'est évident que le plus difficile, c'est de trouver quelqu'un, le conjoint avec qui ça va bien, quelqu'un qui est assorti, quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de traduire, pas besoin d'expliquer, avec qui il y a une connivence, une complicité. Et là, ça ne peut marcher, ce n'est pas du racisme, mais ça peut marcher que quand on est tous les deux dans la même section de la courbe. Et concernant les gens doués, c'est forcément le bout de la courbe. Et sinon, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ou alors, il y a une relation qui n'est pas bonne, hein, qui est dominant-dominé, ou c'est pas bon. Hein. Un couple, c'est un attelage, il faut que chacun aille au même pas que l'autre et qu'ils s'entendent sans avoir besoin de tout expliquer. Donc, mais je m'égare. Parce que c'est pas ça. Mais je le dis à l'occasion, parce que c'est toujours utile. Alors, donc, on revient aux enfants. Que dire ? On dit qu'ils ont des dons, que ces dons doivent être développés, que c'est... ça n'est pas un devoir, mais presque, pour soi-même en tout cas, pour son propre bonheur, développer ses dons. Si on a un don en musique, on devient un vrai musicien, c'est son propre bonheur. Si on devient un dessinateur, c'est son... propre bonheur. Il apprend un peu, il dessine et il a bonheur de faire ça. Et en même temps, les autres en bénéficient. Mais l'essentiel, c'est de développer ses dons et ça, forcément, c'est avec un effort. Ça ne peut pas être autrement. Et en plus, ça donne un résultat absolument magnifique. Et on leur montre ça, que ça donne un résultat magnifique. Alors, le propre des parents, c'est de guider, d'enseigner, de guider leurs enfants dans cette voie en partageant justement ces moments de bonheur, de les aider à découvrir la beauté, de cheminer ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants doués ont besoin de cohérence, de logique, qu'ils détestent l'imprévu. Ils détestent parce que l'imprévu, c'est une rupture d'harmonie, c'est jamais bon. Même si c'est une bonne surprise, ils préfèrent s'y préparer à l'avance parce qu'ils anticipent la joie. Et la joie est plus grande quand elle est anticipée, quand on s'y prépare intellectuellement, mentalement. Et ils savent aussi que les surprises, généralement, sont mauvaises, que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Ils ont cette anxiété qui est toujours là, qui est toujours latente. Ils savent, par exemple, une discussion entre les parents, ils assistent à une discussion qui s'envenime, ça devient un orage épouvantable, on parle de séparation pour quelque chose de banal, et eux, ils anticipent beaucoup les séparations, ils sont affolés quand ils entendent leurs parents se disputer, comme autour d'eux, les copains ont des, souvent les parents qui sont séparés, rares sont les classes où il n'y a pas de parents, pas de divorce, eh bien, ils ont cette peur-là qui plane. Et donc, dès qu'il y a une rupture d'harmonie, dès que quelque chose ne va plus, n'est plus dans l'ordre, eh bien, ça les affole. Alors, on dit qu'ils ont besoin de tout maîtriser, comme les gens, on dit que les gens doués ont besoin de tout maîtriser. C'est surtout pour éviter ces irruptions de quelque chose qui est tout à fait, qui peut être tout à fait dramatique. Et c'est pas qu'ils ont besoin de maîtriser, ça calme l'anxiété. C'est sous contrôle. Et c'est pour ça qu'ils aiment les maths, parce que les maths, on maîtrise, ça va, on retombe toujours sur les mêmes choses, ça apaise. Si on a besoin de cohérence, on aime les maths. Ça respire, voilà. Alors, c'est pas névrotique, hein, ce besoin de tout maîtriser. C'est une défense qu'ils essayent de construire contre leur vision lucide, perspicace du monde extérieur. Même si on les protège plus ou moins en ne montrant pas trop la télévision, ils ont des échos, ils le savent. Après le fameux 11 septembre, tous les enfants que j'ai vus, je travaillais dans un dispensaire, tous les enfants que j'ai vus ont dessiné les avions sur les tours. Tous. C'était du plus petit au plus grand. Tous ont dessiné ça. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'air, même si les parents ont fait attention, les parents disaient, mais non, il n'a pas vu à la télévision. Si même ce qui est dans l'air, ils le captent, les enfants captent ce qui est dans l'air. Ils captent les émotions des parents, mais ils captent aussi ce qui passe comme ça. Et ils en font, et ça nourrit cette anxiété, c'est je suis petit, je suis faible, je ne sais rien, je ne sais pas me défendre, qu'est-ce que je deviendrai, qu'est-ce que je peux devenir, je suis sans armes. Alors on les rassure, on leur dit que petit à petit, on montre les arbres chaque tour, petit à petit tu vas apprendre. Voilà. Et justement, si on revient au QI, tu as toutes les armes qu'il faut, il faut simplement que tu apprennes à les utiliser, mais on va t'apprendre. Et ils savent que la connaissance fait partie des armes, c'est pour ça qu'ils sont déçus en classe quand ils n'apprennent pas, parce que la connaissance, ils savent que ça donne le moyen de savoir ce qu'il faut faire. Et ils sont assez pessimistes. Il y avait une psychologue qui s'appelait Véronique Dufour, qui avait, pour son mémoire, elle avait fait un mémoire en étudiant dans un institut qui s'appelait l'Institut Beaulieu, qui est dans le sud-ouest de la France, qui recevait des enfants doués. Il y a une quinzaine d'années de ça. Et elle avait fait un mémoire en comparant les tests TAT, vous connaissez, hein, on demande des planches qui représentent des personnages, il faut inventer une histoire. Et elle avait comparé les protocoles des TAT des enfants doués et d'une population dite standard. Et comme dit Habib, et là, les enfants au TAT, les enfants doués, leurs histoires étaient beaucoup plus souvent catastrophiques. Et ils voient des issues négatives. Ça ne se passe pas bien. Et c'est vrai que ils disent, quand ils voient des gens en péril, ils disent, ben oui, il va mourir, ça va pas bien se passer. Alors que justement, le propre des gens doués, c'est d'avoir cette force. De pouvoir surmonter les difficultés, d'avoir cette force intérieure qui permet de faire face dans les moments graves. Ils ont cette force qui permet aussi de dépasser leurs moments difficiles. Elle est très importante. Et là, les enfants, quand on leur demande d'inventer, ils ont encore cette vision. Et ils ne sont pas optimistes, hein, ils sont réalistes, lucides. Alors, ce qu'on peut dire aux parents, c'est que il faut se fier à l'instinct. Il faut éviter de parler de comparer avec son propre passé, parce que vous n'êtes pas vos parents. Vous avez fait tester vos enfants. Vous n'êtes pas du tout. L'environnement a changé. Les notions de dons intellectuels sont quand même plus répandues. Donc vous n'êtes pas vos parents. Alors, n'identifiez pas en disant moi j'ai souffert de ça et je veux pas qu'ils souffrent. Le contexte n'est pas le même, donc il faut se fier à ce qu'on ressent, mais ce qu'on ressent au fond de soi-même, son vrai instinct. Là-bas, ne lisez pas trop, mais c'est embêtant que je vous dise ça. Mais ne lisez pas trop, parce que après on est tout étourdi, il y a tout et le contraire de tout, c'est trop, il faut pas trop lire. Ce que j'ai dit tout à l'heure avec le langage, ne pas s'engager dans des négociations, parce que là, pour les enfants, c'est l'exercice du langage, mais s'ils l'emportent, alors les parents ont tendance à céder en disant pour une fois, mais pour une fois, c'est un avantage acquis, on ne revient pas dessus. Et pour une fois, ils sont heureux, les parents ont envie de faire plaisir à leur enfant, donc il y a une petite étincelle de bonheur, et puis l'étincelle s'éteint, et après c'est l'angoisse, parce que l'enfant se dit, si je suis plus fort que mes parents, si j'arrive à le convaincre, qui me protégera? Donc ce n'est pas quelque chose à faire. Et se dire aussi que les limites ne sont pas des barrières hérissées et douloureuses, les limites, c'est simplement protéger les enfants. Au-delà de la limite, le danger commence. Et qu'ils comprennent bien ça quand on leur dit de ne pas faire les choses, de ne pas... Enfin, on donne des conseils, c'est vraiment pour les protéger, parce que les parents veulent le bien de leurs enfants, et on leur... Il vaut mieux leur dire très tôt, pour qu'à l'adolescence, ils ne commencent pas à tout jeter d'emblée, comme ça. C'est pas arbitraire, c'est pas des barrières arbitraires. Alors les enseignants, que dire aux enseignants? Alors surtout pas le QI, enfin moi je pense. Sauf si vous tombez sur l'enseignante ou la directrice géniale qui a elle-même un enfant doué, qui sait ce que c'est et qui saura que si un enfant a 140 ou 130 ou 100, bon, il faut le voir autrement, ne pas hésiter à lui faire sauter une classe. Mais sinon, il ne faut pas laisser de traces de ce QI, parce que ça sera récupéré par quelqu'un. Il y aura forcément quelqu'un qui un jour dira au gosse, toi qui as 150, tu sais pas ça, devant toute la classe, donc c'est pas possible. Et puis, pas donner le compte-rendu non plus. C'est pour ça que je rédige des petits paragraphes pour les enseignants, mais je mets une page, hein, à peine, en 14 en plus, pour que ce soit bien facile à lire et que ça tienne de la place quand même. Et, bah oui, parce que sinon... Et puis, il ne faut surtout pas parler de QI, parce que l'enseignant se dit, il est plus intelligent que moi, donc il a un réflexe de protection. Alors c'est catastrophique. C'est la dernière chose à faire. Voilà. Le message, c'est que les enseignants, en principe, sont des pédagogues, et s'ils ont choisi ce métier, c'est pour transmettre, et transmettre son savoir à quelqu'un qui en profite, à quelqu'un qui l'apprécie, qui l'intègre et qui a envie d'en savoir plus. C'est ça qui doit être le bonheur d'un enseignant. Donc c'est ça le message qu'on doit leur transmettre. Et vous, parents, enfants, vous cheminez ensemble sur cette voie-là de la découverte, des émotions, avec la beauté des émotions qu'on ressent ensemble, des découvertes, du savoir, et c'est quelque chose qui enrichit les uns, qui enrichit les autres. Ben voilà. Voilà, je pense que j'ai rempli le programme qu'on avait fixé. Mais bien sûr, maintenant, il y a des questions.